Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur Radio Pulse Eric Fretel, réalisateur du film Les Gardiens du Climat. Vous le savez, la Terre se réchauffe, le changement climatique impacte aussi la Normandie, car oui, moi aussi je pensais qu'il y avait un dôme énorme au-dessus de la Normandie qui empêchait notre pollution d'impacter l'écosystème normand, mais non. Le réchauffement climatique impacte bel et bien la Normandie et dans ce film, Eric Fretel met en lumière celles et ceux qui luttent et qui agissent pour venir en aide au climat. Ces personnes-là sont les gardiens du climat. Ce film engagé, drôle et important est diffusé partout en Normandie, alors n'hésitez pas à vous renseigner sur le site lesgardiensduclimat.fr pour connaître l'heure et le lieu de la séance la plus proche de chez vous. Et attention, si vous y allez, allez-y en vélo. Merci beaucoup Eric Fretel d'être avec nous sur Radio Pulse. Première question, comment ça va ?
Eh ben écoute, merci de me recevoir. Ça va bien, je crois que je suis heureux en ce moment, ça va.
Le film que tu défends actuellement, c'est donc Les Gardiens du Climat, un film avec un fort message écologique. Les effets du changement climatique en Normandie sont là. Alors, après avoir réalisé le film Eula, ça chauffe, tu voulais dans ce nouveau film valoriser les Normands qui montrent concrètement la voie de ce que l'on peut faire.
Oui, parce que souvent on a l'impression que c'est les autres, c'est ailleurs, on s'approprie pas la lutte contre le réchauffement climatique. Et je me suis dit, en montrant des gens de chez nous, dans le coin, qui agissent, en montrant que bah ils sont comme vous et moi et qui font des choses, bah peut-être ça serait une incitation pour ceux qui regardent le film à se dire, bah ouais, moi aussi je peux agir en fait.
Et du coup, c'est qui ces personnes qui agissent pour sauver notre belle Normandie, notre belle terre ?
Eh ben, ils sont une douzaine dans le film. C'est des gens qui sont soit dans des associations, soit qui sont engagés dans leur travail ou même en politique, et qui ouvrent la voie, alors que ce soit dans le tri des vêtements, des déchets, que ce soit sur la production énergétique, la consommation énergétique, que ce soit en agriculture. En fait, c'est tous les champs de lutte contre le réchauffement climatique qui sont représentés, et puis chaque personnage montre la voie dans un de ces champs de lutte-là, quoi.
Et du coup, concrètement, comment est-ce qu'ils agissent pour sauver le climat ?
Alors concrètement, il faudrait presque les prendre un par un. Alors, je vais te donner des exemples. Il y a par exemple Textilman à Alençon. Ben, lui, il s'occupe de l'association Agir la Redingote. Et il récupère les vêtements qui sont extrêmement, pas seulement polluants, mais aussi consommateurs d'énergie à la production, au transport, etc. Et plutôt que de les jeter ou de les brûler et de consommer sans fin, bah, ils proposent que les vêtements, on puisse les recycler, les reporter à nouveau, ce qui évite de les produire, de les transporter, de les transformer, etc. Donc ça, c'est du concret. Il y a aussi un autre exemple de dans l'Orne, il y a ceux qui font des pailles en paille, Jeff Lubrano et puis Mike Sayard, qui sont basés principalement dans le Perche, mais qui tournent aussi un peu dans le reste de la France. Eh ben, ils font des pailles en paille, tout simplement, plutôt que de faire des pailles en plastique qui sont jetées, qui sont horribles. Eh ben, eux, ils construisent des pailles. C'est bien écologiquement et socialement, en plus.
Et est-ce que, mais du coup, ce qui est assez rigolo dans le film, c'est que tu as appelé ça les gardiens du climat, et du coup, chacune de ces personnes est un peu un super héros. Nous, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire des petits gestes au quotidien qui peuvent nous permettre de nous sauver quelque part ?
Oui, un petit exemple dans le film, on parle des 3 V. Les 3 V, c'est la viande, le vélo, le verdissement. Alors la viande, ça a un impact immense sur le climat. Moi qui suis un grand adepte du vélo, je me disais et un grand adepte des burgers, je me disais que je faisais déjà pas mal de choses en faisant du vélo, que je faisais un bel effort. Et puis quand tu regardes les chiffres, quand tu écoutes la science, tu comprends qu'en fait, tu as un impact beaucoup plus grand en tant que consommateur de viande plutôt qu'en tant qu'automobiliste. Je te donne un exemple concret. Je crois qu'un steak de burger, ça correspond au... Pour produire un steak de burger, donc c'est pas très gros, hein, mais ça correspond en rejet de gaz à effet de serre à peu près 30 km en voiture. Alors, je me suis mis l'exemple en tête que si jamais je vais chez un copain manger un burger... J'y vais en vélo, je suis fier de moi, j'ai fait l'effort, j'y vais en vélo. Je peux quand même me permettre de manger un burger. Et je reviens en vélo, mettons, il habite à 5 km, j'ai fait 10 km. Ben, en fait, j'aurais plus d'impact si j'y étais allé en voiture, mais que j'avais mangé une salade, mon impact sur le climat aurait été plus important que de faire l'effort d'y aller en vélo. Donc du coup, la viande, je dis pas arrêter la viande, hein. Enfin non, j'y arrive pas, j'en suis incapable. Mais réduire autant qu'on peut, et puis choisir la bonne viande, parce qu'il y a des gens qui élèvent les animaux correctement. Donc, choisir la bonne viande. Le deuxième, c'est donc le vélo, parce que ça, alors là, économiquement, mais c'est du bonheur en barre. Hein. Moi, je me déplace à vélo, j'ai pas de voiture. Alors, quand je vois, oui, il faut que j'aille encore chez le garagiste, bah, disons, le plein a encore augmenté. Là là, mais je suis content d'être en vélo. Puis en plus, c'est bon pour la santé, donc c'est du bonheur en barre pour tout le monde. Et le troisième V, c'est le verdissement. C'est partout où on peut augmenter la biomasse. Plutôt que d'avoir des pelouses, terrains de golf, ou même, maintenant, les gens, ils minéralisent de plus en plus. Hein. Ils font des jardins qui sont plus des jardins, en fait, maintenant, qui sont tout faits pour pouvoir garer des voitures, c'est bitumé, etc. Le verdissement, il faut le plus de verdure possible. Si tu as un carré de 4 mètres carrés, eh ben, si tu arrives à planter un arbre sur cet endroit-là, tu vas stocker encore plus de carbone. Donc plus on met d'arbres, de verdure, de biodiversité, plus on stocke du carbone dans un arbre. Si tu prends la matière sèche, c'est-à-dire tu enlèves les feuilles, tu prends les branches, les troncs, les racines, la moitié de ça, c'est du carbone, la moitié. Donc t'imagines la quantité de carbone qu'on stocke là-dedans et qu'on ne stocke pas dans l'atmosphère. Donc il faut partout on peut verdir. Et du coup, le vélo, c'est un double impact, hein, parce que s'il y a moins de voitures et plus de vélos, ça laisse plus de surface dans les villes, si tu m'avais une place de parking, par exemple, pour mettre du verdissement.
Incroyable. Donc si on réalise ces 3V, on fera peut-être, nous aussi, partie de ces super-héros du climat.
Et oui, on sauve la planète, donc on est un super-héros.
Est-ce que tu sens aujourd'hui les gens plus sensibles, engagés dans les causes écologiques ?
Alors on en parle, on fait beaucoup plus de bruit, mais il faut regarder la réalité en face. Si tu prends les chiffres, en France, chaque année, on produit plus de déchets, on consomme plus d'énergie que l'année précédente. Peut-être médiatiquement, dans les discussions, oui, ça fait du bruit, mais concrètement, sur le terrain, on n'y est pas du tout. On continue la croissance, on continue la dépense énergétique, on continue à consommer comme des cinglés. La consommation, c'est tout pourri, quoi. Faut arrêter, c'est du has-been, c'est pour les beaufs, la consommation.
Lorsque tu présentes les gardiens du climat dans les différentes salles de cinéma, c'est quoi la question de spectateur qui revient le plus souvent ?
Ouf, alors là, attention, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si la question qui revient le plus souvent, mais c'est une question qui mérite un peu, c'est ou une remarque, tu vois, ça va toujours être « Oui, mais c'est pas nous, c'est les Chinois. Oui, mais c'est pas nous, faut voir ce qu'ils font, les jeunes. Ah, et puis les vieux, vous avez vu comment ils font ? Non, mais c'est ceux qui sont en 4x4. » En fait, ce qui mérite un peu, c'est qu'on va toujours dire c'est pas moi, c'est les autres. Et ça m'embête parce que c'est un inhibiteur à l'action. C'est-à-dire, tant qu'on se dit pas j'ai ma petite marge de manœuvre, on fera jamais rien. Donc c'est souvent à ça que je dois répondre. Je veux dire, mais non, vous avez votre marge de manœuvre, utilisez-la. Vous ruinez pas la santé, ne tombez pas dans la déprime. Mais les petites choses que vous pouvez faire, faites-les, mais ne commencez pas à accuser les autres en disant, en vous délestant de votre capacité à changer le monde. On a un super pouvoir à l'intérieur de nous. On peut changer le monde. Il faut pas, le dénigrer ce pouvoir-là. Faut pas mettre ça sur le dos des autres.
On a tous un super pouvoir et on a tous un impact. Maintenant, d'un point de vue plus technique, combien ça t'a pris de temps pour réaliser ce documentaire ?
C'est compliqué. À partir du moment où on a l'idée jusqu'à ce que le film sorte. On peut dire que le film il a pris un an et demi à naître, quoi. À partir du moment où on s'est attaqué sérieusement au scénario jusqu'à ce qu'il sorte concrètement au cinéma, on va dire à peu près un an et demi. Il y a plusieurs phases. Il y a d'abord l'écriture, où on va rassembler les idées, on va aller chercher les idées. Le scénario est fait, il est prêt ensuite. Et quand il est prêt, il va falloir qu'on prépare le tournage, avec qui on va tourner, dans quel lieu, rassembler les équipes, se poser des jours pour que toute l'équipe soit rassemblée et qu'on puisse tourner. Une fois que le tournage est fait, on peut attaquer le montage. Parce que c'est très long, hein. Le montage, on va dire que c'est 70% du temps de réalisation du film. Et puis ensuite, tout ce qui est effets spéciaux, refaire les couleurs et les lumières, et puis tout ce qui est refaire le son pour qu'on ait un beau son bien correct.
Et est-ce que tu t'es associé avec des associations, ou alors est-ce que tu t'es fait aider par certaines personnes pour réaliser ce film ?
Oh oui, on dit qu'un film, c'est une œuvre collective. On peut pas faire un film tout seul. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup avec Florent Cateau et David Taburet de deuxième production à Alençon. Ils ont été formidables, parce que moi, la technique, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Je le faisais avant, je faisais tout seul comme un grand avant, mais sans véritable passion pour tout ce qu'il y a des câbles, des micros, des caméras, des machins. Et du coup, en travaillant avec deuxième production, j'ai pu faire un truc vraiment génial. Hein. Quand je me suis attaqué à leurs images au montage, là, je sentais que je passais un cap. Et puis, pareil, les effets spéciaux, moi, je maîtrise pas du tout. Donc, j'ai bossé avec des copains. Pareil pour les dessins, puisqu'en fait, on a tous les personnages du film qui luttent contre le réchauffement climatique. On les a transformés en super-héros. Donc, j'ai travaillé avec un dessinateur, Jay Stoner, qui est vraiment un gars formidable. Et puis, il y a eu Serge Le Sur, qui m'a aidé à la construction du scénario. La MJC de Bernay, qui a été chercher des sous pour faire le film, parce qu'il faut des sous pour faire un film.
C'est sûr. Et toi qui viens d'Alençon, est-ce que tu as tourné des scènes justement dans la ville d'Alençon ?
Alors, quand on parle de sous, là, comme je disais tout à l'heure, il faut que le film coûte le moins cher possible. Donc le but, c'était de tourner le moins loin possible, moins de déplacements, disons gagner. Donc on a tourné pas mal de scènes à Alençon. Je pense à la scène de baston final, parce que oui, on peut faire un documentaire sur l'environnement avec de l'action. Donc on a tourné ça à Alençon. Et puis, il y a plein de scènes d'illustration. On voit les bus d'Alençon. Il y a plein de moments où on a tourné dans le coin pour que ça nous coûte pas trop cher et puis que, de toute façon, peu importe où les images sont prises, si on peut les faire le plus proche possible, c'est plus simple pour tout le monde, quoi.
Et si on remonte un petit peu dans le temps, quand est-ce que ça a débuté chez toi, cette passion pour les documentaires ?
Je pense que c'est au début des années 2000 que j'ai commencé à me dire, mais il y a vraiment moyen de faire des documentaires cool, en voyant Bowling for Columbine de Michael Moore, où c'est pas du documentaire plan-plan, où c'est très long, c'est au ralenti. Non, mais là, il y a du fun, il y a du rythme, il y a des images de synthèse, il y a des explications, et surtout, il y a de l'humour. Et je me suis dit que c'était quelque chose qui était accessible. Il y avait moyen de faire des documentaires comme ça. Et ça m'a inspiré. D'ailleurs, tous les documentaires que je fais, ce sont des docu-comédies. C'est des trucs drôles. Déjà, l'environnement, ça peut être démoralisant. Et puis, il faut avouer qu'un documentaire, c'est pas aussi fun qu'un film. Donc du coup, je me suis dit, en faisant un docu-comédie, on a moyen de tordre le bras à ce prérequis-là, et en faisant quelque chose de fun et de drôle qui incite à passer à l'action, quoi.
Et en plus de ce film, donc Les Gardiens du Climat, tu as réalisé d'autres documentaires avec à chaque fois un message écologique fort. Alors pourquoi en fait avoir choisi de défendre et de valoriser ce message, l'écologie, dans tous tes films ?
Mais l'écologie, c'est la vie. Si on continue à faire n'importe quoi, on est tous morts. Donc le principal, la chose centrale, c'est de maintenir des conditions de vie, des conditions de vie supportables pour l'humanité sur la planète. L'humanité, l'Homo sapiens, il a apparu parce que il y avait un écosystème qui lui était favorable. Et on est en train de détruire tout ça. C'est-à-dire qu'avec des températures qui vont augmenter, avec des ressources qui vont diminuer, la planète ne sera pas favorable à la vie pour l'homme sur Terre. La vie va continuer à exister, hein. Quand on aura disparu, il n'y aura vraiment aucun problème, il y aura tout plein d'animaux, de végétaux qui vont continuer à subsister à la surface du globe. Mais pas nous. Donc si on s'y prend pas maintenant, si on change pas les choses, on va disparaître. Donc la priorité des priorités, c'est de maintenir un environnement vivable. Et en fait, j'aime bien dire que, et ça c'est central pour moi, l'écologie, ça n'est rien d'autre que de l'économie et réfléchi sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit économie, en fait, c'est toujours économie à court terme. C'est-à-dire, on va réfléchir sur, pour les entreprises, ça va être au trimestre ou à l'année. Pour les politiques, ça va être en termes de mandat. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de leur mandat, ça soit à peu près bien passé. Mais on ne réfléchit pas en termes de génération. Une génération, c'est 25 ans. 25 ans, c'est le temps de rembourser un emprunt sur une maison. Donc en général, quand on se lance là-dedans, on réfléchit à ce que sera notre vie au bout de l'emprunt. Mais si on réfléchit l'économie sur 25 ans, c'est de l'écologie. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. On peut pas continuer à faire disparaître le vivant qui a un rôle indirect pour le bien-vivre de l'humanité. La biodiversité, les forêts, ça filtre l'air, ça rend l'air respirable, propre pour nous. Il faut absolument qu'on maintienne des conditions de vie durables sur le long terme pour l'humanité.
Et pour finir, dernière question, est-ce que tu as une idée de thème pour ton prochain film ?
Oui, le prochain film est déjà en cours de réalisation. Ça va s'appeler Vélotopia 2, puisqu'en 2012, j'avais réalisé Vélotopia 1. Et là, Vélotopia 2 est en cours de tournage. Quand Vélotopia 1 est sorti, les premières pistes cyclables étaient en train d'émerger, il y avait les Vélib, etc., qui sont en train d'arriver. Il faut avouer que depuis une douzaine d'années, les choses ont vraiment changé. Il y a d'abord eu les Corona pistes qui ont augmenté le nombre de pistes cyclables et donc de praticiens du vélo. Et puis, il y a eu le Covid qui a fait réfléchir les gens. Et puis surtout, techniquement, le vélo électrique qui a remis beaucoup de monde en selle, des gens qui étaient peut-être en surpoids ou physiquement qui étaient plus âgés, ben, qui aujourd'hui peuvent refaire du vélo. Et l'augmentation du nombre de cyclistes est en train de changer le paysage des villes. Donc il y a vraiment moyen de faire un Vélotopia 2 qui montre ces changements et puis surtout qui incite encore un plus grand nombre à passer au vélo parce que le vélo c'est du bonheur en barre.
Bah, merci beaucoup Eric Fretel d'avoir été avec nous sur Radio Pulse. Et puis on retient les 3 V importants pour sauver la planète. Merci encore d'avoir été sur Radio Pulse.
Salut Simon, à bientôt.
Merci beaucoup encore une fois Eric Fretel d'être venu sur Radio Pulse pour répondre à nos questions. On le rappelle, tu es le réalisateur du film Les Gardiens du Climat. Vous savez, la Terre se réchauffe, le changement climatique impacte aussi la Normandie. Alors, il est important de voir ce film donc de Eric Fretel, Les Gardiens du Climat, un film qui met en lumière celles et ceux qui luttent et qui agissent pour venir en aide au climat. Ce film est engagé, drôle et extrêmement important. Alors, il sera diffusé évidemment partout en Normandie. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site lesgardiensduclimat.fr pour connaître l'heure et le lieu de la séance la plus proche de chez vous. Par contre, attention, si vous allez voir ce film, allez-y en vélo, c'est important.